Place au livre sur Cité Radio et nous accueillons Michel Embarek, un auteur tourangeau avec qui nous allons parler musique et roman noir. Bonjour Michel.
Bonjour.
Et bienvenue sur Cité Radio, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors déjà, on aimerait savoir comment est venu cet amour pour les mots en tant que romancier.
Ah ben alors là, ça remonte, pas à l'enfance, mais à la toute jeune adolescence. J'ai passé 7 ans d'internat napoléonien dans les années 60, dans le Jura, où il n'y avait strictement aucune distraction. Il n'y avait pas de radio, pas de télé, pas de journaux. Il n'y avait qu'une distraction, c'était la lecture avec une magnifique bibliothèque. Et puis, déjà à cette époque-là, je m'amusais à écrire à la façon de... Alors, je lisais un auteur, on va dire Marcel Aimé, parce qu'en plus, il était jurassien. Après avoir lu 2 ou 3 bouquins de Marcel Aimé, avoir essayé de comprendre comment il organisait son récit, j'essayais d'écrire sur un thème quelconque, hein, la neige, la pluie, le vent... Un match de quelconque ou l'internat à la façon de, et j'en ai fait comme ça, je sais pas, 20aine, 30aine, 50aine. C'était à cette époque là on va dire 14 ans, voilà, ça, je faisais déjà ça. Et puis il y a un autre fait marquant, si on peut dire, sur l'année scolaire 67-68, il y a eu un concours national de rédaction dont le thème était la fête foraine. Et j'ai obtenu un prix, pas le premier prix, mais je ne sais pas, le deuxième ou le troisième prix, qui devait être remis en fin d'année scolaire. Sauf qu'en 68, il n'y a jamais eu de remise des prix. On nous a foutu dehors de l'internat au mois d'avril, je crois, fin avril. Et le prix s'est perdu dans les vapeurs des gaz lacrymogènes. Voilà.
Et tu as des auteurs favoris en littérature classique et littérature contemporaine ?
Oui, je suis un grand admirateur de les écrivains populaires français années 50-60, écrivains américains classiques, Dos Passos, Caldwell, Steinbeck.
Mais en tout cas de grands auteurs, et on va donc maintenant évoquer ton actualité avec Rock en vrac, hein, ton livre qui est paru le 17 février 2025 aux éditions Relatives. Alors est-ce que tu peux nous dire pourquoi et comment as-tu conçu cet ouvrage de 280 pages, qui est donc une édition augmentée du livre qui était paru en 2011 et qui retrace 40 ans d'histoire du rock, du punk, du blues et du polar?
Alors ce livre, au tout départ de l'histoire, mon fils m'avait dit un jour, oui, ça serait bien que tu racontes ce que tu as fait quand tu étais jeune, etc., etc. Parce que moi, à l'école, quand je dis aux autres que mon père, il était en tournée avec AC/DC ou qu'il avait passé les journées avec Gainsbourg, etc., etc., ils ne me croient pas, ils se foutent de moi. J'avais mis ça dans un coin de ma tête et un jour, je l'ai dit à une éditrice qui me dit, mais évidemment, il faut raconter ça. Écoute... Tout le monde s'en fout, c'était les années 70, là on est en fin des années 90 à peu près, peut-être début des années 2000. Je dis écoute franchement, tout le monde me dit non, les jeunes ils veulent savoir et tout. Donc tout doucement j'ai assemblé des souvenirs, quelques nouvelles que je qualifie de musicales que j'avais écrites pour Rolling Stone, il n'y en avait pas beaucoup, il devait y en avoir 3 ou 4 grand maximum, et puis des chroniques. Que je faisais pour Rolling Stone, c'est-à-dire j'écrivais une... C'est un exercice que j'aimais beaucoup, beaucoup faire et que j'ai fait après dans le genre pour Libération, c'est-à-dire des chroniques de 2200 signes, un feuillet et demi, où on raconte une courte histoire pour faire le portrait de quelqu'un. Voilà. Donc j'avais cette rubrique dans Rolling Stone qui s'appelait Gardien du Temple, où en 2200 signes, je parlais d'un musicien et de sa vie, son œuvre. Voilà. Mais le tout étant mis en scène. Oui. Et donc ça avait donné un livre. Et puis au fil des années, j'ai écrit un paquet de nouvelles autour de la musique, mais ces nouvelles étaient complètement dispersées, c'est-à-dire qu'il y en a eu dans un quotidien, dans des magazines, dans des ouvrages collectifs, dans des fanzines, et je tenais à certaines de ces nouvelles qui étaient passées comme ça, sans personne s'y accroche. Et puis, j'avais dans mes placards, évidemment, je ne sais pas comment raconter, une espèce de caisse dans laquelle, pendant 30 ans, j'ai mis les photos que je prenais autour de la musique, pareil. Donc, avec l'éditeur, Thierry Tuborg, il m'a demandé de plonger dans cette caisse, d'essayer de retrouver des photos. Et lui, il tenait vraiment à faire un livre augmenté avec les nouvelles, toutes les nouvelles musicales, et des photos. Et c'est rare de trouver un éditeur qui veut faire un livre en demandant à ce qu'il y ait plus de photos, parce qu'en général, les éditeurs demandent à ce qu'il y ait moins de photos, parce qu'évidemment, ça coûte cher. Et lui, en plus, a découvert que certaines des photos parues dans la première édition avaient été traitées en noir et blanc alors qu'elles étaient en couleur. Et lui a voulu les republier en couleur.
D'accord. Et donc, tu l'as dit, c'est une nouvelle édition avec de nouveaux textes et de nouvelles photos. C'est une photo de Joe Strummer qui est en couverture du livre. Et tu parles bien sûr de rencontres marquantes dans ta carrière, avec notamment The Clash, Bernard Lavilliers, Serge Gainsbourg, Bob Dylan. Voilà, ce sont vraiment des rencontres qui t'ont marqué. Et tu as peut-être une ou deux anecdotes à nous faire partager ?
Il y a des anecdotes. Une que j'aime beaucoup, c'est quand j'ai rencontré une dame que tout le monde a oubliée peut-être aujourd'hui, qui est décédée, qui s'appelait Alberta Hunter. Alberta Hunter, ça a été, contrairement à ce qu'on raconte, à ce qu'on croit, ça a été vraiment la première chanteuse noire américaine à venir chanter le jazz. C'était une chanteuse de jazz, le jazz en France. Un ou deux ans avant Josephine Baker. Et j'ai rencontré cette dame, je l'ai repérée complètement par hasard, parce que Meds Meadsrow parle d'elle dans La Rage de Vivre. Et un jour, en feuilletant Pariscope, je vois que Alberta Hunter chantait dans un grand hôtel, faisait du piano-bar dans un grand hôtel parisien et tout. Donc je suis allé, comme ça, l'après-midi, j'ai demandé à la voir. Et le pianiste était son frère. Et c'est là qu'on a passé un long moment ensemble où elle m'a raconté sa vie qui était absolument extraordinaire. Quoi. Elle était fugueuse à je ne sais pas quel âge, à 12 ans, 13 ans. Elle était arrivée à Chicago, elle était rentrée dans un gang de filles. Elle s'était mise à chanter. Elle avait fréquenté tout le gratin de la pègre de Chicago. Elle m'avait dit beaucoup de bien de Al Capone, qui était un monsieur qui demandait la permission aux dames avant d'allumer son cigare. Et beaucoup de mal des incorruptibles et de Elliot Ness, qui avait employé des méthodes absolument dégueulasses. Et elle m'a raconté des anecdotes, enfin il y avait des trucs, mais vraiment drôles, je me souviens. Elle me dit, un jour j'étais en train de chanter, tout d'un coup la lumière s'est éteinte, il y a eu un coup de feu, la lumière s'est rallumée, il y avait un mort dans le piano.
D'accord.
Et ben voilà. Bah, en tout cas, c'est une anecdote. Donc voilà. En tout cas, ce livre est vraiment bien documenté, bien écrit. Comment as-tu travaillé avec les éditions relatives ? Est-ce qu'on peut dire quelques mots de cette maison d'édition qui est basée en Gironde ?
Alors, cette maison est surtout animée par Thierry Tuborg, qui est un ancien chanteur punk d'un groupe Stalag et Stalingrad, qui étaient les groupes de Bordelais. Et en fait, Thierry est le... a monté cette maison d'édition au départ pour rééditer le livre de son grand-père, le grand livre de son grand-père, qui est Pépé le Moko.
Bah, qui a eu le film
et dont le Oui, il y a eu un film qui vient d'être restauré et est revenu à l'écran là dernièrement. Ouais. Au départ, il monte cette maison d'édition pour exploiter, c'est un grand mot, pour faire vivre ce livre de son grand-père. C'est comme ça que je suis rentré en contact avec lui, parce que j'étais tellement étonné que quelqu'un republie Pépé le Moko. Moi, j'en étais resté à la version livre de poche 1960. Quand je lui ai parlé de ce bouquin à rééditer, c'est lui qui m'a dit « Oui, moi, je suis partant, mais dans une version augmentée. » Voilà. donc merci à lui parce que c'est lui qui a pris tous les risques. Apparemment, il est content des ventes, mais c'est une toute petite maison, quoi. C'est, ouais. Et puis j'aime bien pour ce genre d'édition de livres. J'aime bien travailler avec des gens qui comprennent, enfin qui aiment la musique et qui comprennent ce que je raconte. Parce que j'ai eu des contacts, par exemple, avec très grande maison d'édition, avec une éditrice qui m'a dit carrément qu'elle voyait à peu près qui était Bob Marley et qui était Serge Gainsbourg. Elle, c'était plutôt Chopin et Beethoven. Ouais. Donc, ça donne pas vraiment envie de. Voilà. Je préfère travailler avec Thierry qui comprend et qui sait comment ça s'est vraiment passé aussi. Ouais. Voilà.
Eh bien, c'est l'occasion de le saluer et de saluer cette maison d'édition. Et puis donc, tu l'as dit, les rencontres ont commencé. Je sais que tu as été le 20 février à la librairie parallèle à Paris. Donc, les rencontres vont se poursuivre puisqu'il y aura notamment une dédicace le 5 avril à la boîte à livres.
Exactement, le 5 avril à la boîte à livres. Voilà, c'est merci à la boîte à livres de m'accueillir. Et puis, ça sera l'après-midi de 15h à 18h. Mm-hmm. J'espère qu'il y aura des tourangeaux et puis des copains tourangeaux pour venir... discuter un peu et repartir avec un livre sous le bras.
Eh bien, très bien, l'appel est lancé, donc rendez-vous le 5 avril. Et puis tu as d'autres projets, Michel, peut-être un autre livre ?
Non, mes autres projets pour le moment sont de... J'ai pas un gros problème, c'est-à-dire que deux autres... Alors là, on est dans des romans autour de la musique. Mon roman autour de Jim Morrison et mon roman autour de Bob Dylan, ils sont tous les deux épuisés. Et pour le moment, j'ai beaucoup travaillé avec les éditions de l'Archipel, avec Jean-Daniel Belfond, avec qui je m'entendais vraiment très bien, qui était mon interlocuteur, qui était le patron, propriétaire des éditions. Sauf que Jean-Daniel a vendu, il a pris sa retraite. L'Archipel est rentré dans un énorme conglomérat de maisons d'édition. Et moi, j'aimerais trouver quelqu'un pour les rééditer en poche. Voilà, pour l'instant, c'est vers ça. D'accord. Autrement, oui, c'est des bricoles, de nouvelles. Enfin, il n'y a pas de gros projet actuellement. Voilà. D'accord.
Mais en tout cas, on peut te retrouver en librairie avec Rock en Vrac, donc Rencontre avec des cahiers du rock et du roman noir, donc une édition augmentée avec de nouveaux textes et de nouvelles photos, et c'est publié aux éditions Relatives. Merci beaucoup, Michel, d'être intervenu sur Cité Radio, et puis on te souhaite le meilleur pour cette année 2025, et à bientôt. Merci.
À bientôt. Merci de m'avoir accueilli.
Merci à notre invité Michel Ambarek. Vous pourrez le retrouver le samedi 5 avril à partir de 15h en dédicace à la librairie La Boîte à Livres.